VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30 en universel du 30 juillet 2018 sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Les Zimbabwéens aux urnes pour choisir leur président 8 mois après la chute de Robert Mugabe. Les Maliens dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle. Les observateurs se prononcent ce lundi sur le déroulement du scrutin. Sommet conjoint CDAO-CEAC sur le terrorisme se tient donc à Lomé aujourd'hui. Et en partie magazine, la colère des usagers d'Internet contre l'opérateur Orange au Sénégal.
Chaque fois ils nous volent, chaque fois ils font des milliards de bénéfices. Alors qu'au Sénégal, les gens n'ont pas quoi manger.
Ici aux États-Unis, 7 personnes ont trouvé la mort dans des incendies en Californie. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Sénégal, le verdict du procès en appel du maire de Dakar, Khalifa Sall, condamné pour détournement de fonds publics, sera rendu le 30 août. Le procureur de la Cour d'appel de Dakar a requis ce lundi la confirmation de la peine prononcée en première instance, soit 5 ans de prison et une amende de plus de 7 000 euros à l'encontre de Khalifa Sall. La semaine dernière, Khalifa Sall a annoncé sa candidature à la présidentielle sénégalaise de février prochain, depuis sa cellule à la prison de Rebess. Au Mali, le dépouillement des bulletins de vote se poursuit ce lundi, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Dans une déclaration à VOA Afrique, le président du pôle d'observation du Mali affirme on fait le point avec Jacques Aristide.
Pour les observateurs du POSIM, l'affluence n'était pas au rendez-vous hier dans bon nombre de centres et de bureaux de vote. Dans un entretien à VOA Afrique, le président de ce pool d'observation évoque un taux de participation de 37%. Ibrahima Sango affirme disposer des chiffres pouvant donner une idée des tendances, mais n'en fera pas part maintenant en raison de la loi électorale. Il a toutefois confié à VOA Afrique que tout indique qu'un second tour aura bel et bien lieu. Il est prévu pour le 12 août. Concernant le vote d'hier, les observateurs déplorent les différents incidents qui se sont produits, de même que ce qu'ils appellent des dysfonctionnements et insuffisances. 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta affrontait 23 autres candidats, dont Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition de Bamako au Mali. Jacques Aristide pour VOA Afrique.
L'opposant congolais en exil Moïse Katumbi a officiellement demandé l'autorisation de rentrer en République démocratique du Congo, où il compte déposer sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre. M. Katumbi a demandé l'autorisation d'atterrir en jet privé vendredi à l'aéroport de Lubumbashi en provenance de Johannesburg. Clôture des bureaux de vote au Zimbabwe ce soir après la première présidentielle post-Mugabe qui s'est déroulée sans incident avec une participation élevée. Le point avec Nicolas Pinon.
Oui, les Zimbabwéens ont voté en masse pour cette présidentielle organisée en même temps que les législatives et les municipales. Tout s'est déroulé dans le calme avec de longues files d'attente dès l'aube devant de nombreux bureaux de vote à Harare. Pour ces scrutins historiques, la participation est élevée, a annoncé à la mi-journée la présidente de la commission électorale, Priscilla Chikumba. 23 candidats sur la liste de départ, dont l'actuel président Emmerson Mnangagwa pour la ZANU-PF, au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Le président Mnangagwa, qui a voté dans sa ville natale de Kwekwe, s'est félicité que la campagne ait été pacifique, tout comme le vote. Son principal adversaire est l'opposant Nelson Chamisa, leader du mouvement pour le changement démocratique. Robert Mugabe avait indirectement à voter pour lui pour battre son ancien parti. Pendant la campagne, l'opposition avait dénoncé les fraudes massives possibles. L'ONU s'était aussi inquiétée des intimidations d'électeurs avant le scrutin, mais elle a aussi salué l'élargissement de l'espace démocratique au Zimbabwe. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour devrait être organisé d'ici le 8 septembre.
L'ex-première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, ne bénéficiait pas de l'immunité diplomatique lors de l'agression en 2017 à Johannesburg d'une jeune femme, ce qu'a indiqué ce lundi un tribunal sud-africain. Le mannequin sud-africain Gabriela Angels affirme avoir été frappé avec un câble électrique par Grace Mugabe le 13 août dans un hôtel de la ville. Grace Mugabe s'était alors vu reconnaître l'immunité diplomatique par le ministère sud-africain des Affaires étrangères au nom de l'importance des relations entre les deux pays. Les électeurs comoriens ont voté ce lundi lors d'un référendum sur une réforme constitutionnelle qui permettrait au président Azali Assoumani de briguer deux autres mandats consécutifs. Les opérations de vote ont débuté avec près de 2 heures de retard à Moroni en l'absence de matériel électoral à l'ouverture théorique des bureaux de vote à 7 heures. Élu en 2016, Azali Assoumani a créé la surprise il y a 3 mois. En annonçant une vaste réorganisation des pouvoirs. Un sommet conjoint de la CEDEAO et de la CEAC a eu lieu ce lundi à Lomé. C'est la première fois que les chefs d'État et de gouvernement des deux sous-régions tiennent une rencontre de ce genre. Au centre des débats, la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le point de la journée avec notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Les 26 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre conjuguent leurs forces pour venir à bout du terrorisme et instaurer une paix durable dans les deux sous-régions. En se donnant rendez-vous à Lomé pour la première fois, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, posent un acte en faveur de la paix. Ce sommet conjoint symbolise l'engagement des deux communautés à répondre aux défis sécuritaires de la coopération interrégionale. Pour le président en exercice de la CEAC, le Gabonais Ali Bongo Ondimba, les menaces sécuritaires transversales commandent les deux sous-régions d'agir de manière concertée et collective. L'Afrique de l'Ouest et du Centre font face à des menaces sécuritaires transfrontalières, y compris le terrorisme, l'extrémisme, les conflits liés à la transhumance, l'insécurité maritime et la piraterie. Il est donc impérieux que nous trouvions ensemble la meilleure approche pour nous attaquer à ces menaces et garantir la paix et la sécurité de nos populations, a indiqué pour sa part Fornia Singbe, le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. En ce moment même, les travaux à huis clos se poursuivent et seront sanctionnés par une déclaration, dite la déclaration de Lomé. Kay Lawson, Lomé pour VOA Afrique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU retarde son plan visant à réduire les effectifs d'une mission de maintien de la paix en Somalie, estimant que les forces de sécurité somaliennes n'étaient pas suffisamment préparées. Quelques 1000 soldats de la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, devaient quitter le pays d'ici la fin octobre, mais le Conseil a adopté à l'unanimité une résolution reportant leur départ à la fin du mois de février 2019. La police égyptienne a ouvert une enquête sur la mort d'un évêque copte dont le corps a été retrouvé dans son monastère au nord-ouest du Caire. L'enquête vise à déterminer les raisons de la mort, le corps du défunt ayant été retrouvé dans un couloir du monastère avec des blessures à la tête.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump se dit prêt à rencontrer les dirigeants iraniens quand ils veulent, sans conditions préalables, a-t-il dit lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche avec le premier ministre italien Giuseppe Conte. « Je ne sais pas s'ils sont prêts », a dit le président des États-Unis en réponse à une question sur une éventuelle rencontre avec son homologue iranien Hassan Rouhani. Quelques 12 000 pompiers poursuivent ce lundi en Californie la lutte contre des incendies qui ont fait au moins 7 morts dans cet État. Le brasier a déjà dévoré des milliers d'hectares. Le point avec Raïssa Gironda.
Le nord de la Californie s'embrase. 17 feux de grande envergure au total. Des flammes incontrôlables et une fumée toxique rendant les opérations de secours presque impossibles. 3 pompiers comptent déjà parmi les victimes du brasier. Des renforts envoyés par 13 États sont arrivés sur place. 3 personnes, une femme de 70 ans et ses 2 arrière-petits-enfants âgés de 4 et 5 ans, ont péri lorsque leur mobil-home a été pris par le feu. Dimanche, les restes d'une personne qui avait ignoré les ordres d'évacuation ont été retrouvés dans une résidence incendiée selon les autorités. Dimanche soir, l'incendie de Carr n'était circonscrit qu'à 17% et s'étendait sur plus de 38 600 hectares, selon des données officielles. Au dernier pointage, 38 000 personnes ont été évacuées dans le comté de Shasta. Le gouverneur de Californie, Jerry Brown, y a déclaré l'état d'urgence.
L'armée israélienne a indiqué avoir arrêté ce lundi en Cisjordanie 4 Palestiniens de la chaîne de télévision Al-Quds, proche du mouvement islamiste Hamas. Le ministre de la Défense israélien Avigdor Lieberman avait ordonné début juillet que cette chaîne soit inscrite sur la liste israélienne des organisations terroristes. L'organisation État islamique a enlevé une trentaine de femmes et d'enfants de la minorité Druze en Syrie lors d'un assaut mené la semaine dernière. Le 25 juillet, le groupe a lancé une série d'attaques coordonnées, dont des attentats suicides contre la ville de Souaïda, c'est dans le sud du pays, et d'autres localités qui ont fait plus de 250 000 morts, selon des bilans, l'un des bilans les plus lourds depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique à présent, c'est la Minute Éco présentée ce soir par Nicolas Pilon.
Le Fonds monétaire international maintient à 1,5% la prévision de croissance économique de l'Afrique du Sud pour 2018. Le FMI prévient cependant que l'économie sud-africaine doit faire face à la hausse rapide de la dette publique et le renflouement des entreprises publiques. La grève d'une partie des pilotes de la compagnie Royal Air Maroc continue ce lundi, provoquant l'annulation d'une dizaine de vols. Une partie des pilotes a entamé une grève le 20 juillet dernier pour protester contre leurs conditions de travail. Ils exigent une revalorisation salariale. La RAM perdrait ainsi 20 millions de dirhams par jour. Autre compagnie aérienne dans l'actualité, Air Sénégal. Après 2 semaines de suspension, l'un des deux ATR a repris vendredi du service vers Ziguinchor en Casamance. Cette immobilisation forcée des deux appareils de la jeune compagnie avait suscité de vives inquiétudes dans un pays déjà échaudé par les expériences avortées d'Air Sénégal International et de Sénégal Airlines. La République du Congo réapparaît dans l'agenda du conseil d'administration du FMI. C'est finalement vendredi 3 août que sera examinée la situation du pays et éventuellement le vote d'un soutien financier. Ce soutien est très attendu au Congo dont la dette s'élève à 9,5 milliards de dollars. Alors que le pays peine à mobiliser des recettes, la dernière mission du FMI à Brazzaville avait conditionné son soutien à des réformes audacieuses et immédiates.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
On connaît la date des élections à la Fédération béninoise de football.
Rendez-vous le 25 août prochain pour un combat fratricide entre Bruno Didavi, tête de liste du programme Nouvel Élan, et Martirin de Chacus, patron de la liste Football Nouveau Départ. Pour une deuxième fois après l'échec de 2013 face à Augustin Awanvuebla, Bruno Didavi voudrait toujours prendre son destin en main et s'assumer. Pour ces élections, il bénéficie du soutien de son ex-challenger qu'il a battu en 2013.
Ben Zarti devrait 50 000 dollars au WAC.
Et oui, en poste au Wydad à Casablanca, Faouzi Ben Zarti a décidé de s'en aller pour prendre en main le poste de sélectionneur de la Tunisie. Dans des propos rapportés par la presse locale, le président du WAC, Saïd Nasri, a expliqué que le technicien devra verser une pénalité de 50 000 dollars, soit 2 mois de salaire, en contrepartie au club marocain. Cette disposition est contenue dans son contrat.
Riyad Mahrez de retour à l'entraînement dans la semaine.
Bonne nouvelle, le milieu de terrain algérien de Manchester City, touché hier à une cheville, va reprendre l'entraînement cette semaine et pourrait être disponible pour le Community Shield face à Chelsea dimanche prochain, d'après l'annonce faite par son nouveau club. L'international algérien de 27 ans a passé des examens qui n'ont révélé aucune blessure sérieuse, selon Manchester City. Mahrez a subi une faute du jeune joueur du Bayern Munich, Chris Richard, à l'occasion d'un match amical à Miami, qu'il avait laissé longtemps au sol avec une cheville gauche douloureuse.
Lomar veut gagner la Ligue des Champions avec l'Atlético.
Le milieu de terrain champion du monde avec la France a mis la barre de ses ambitions haut avec son nouveau club, l'Atlético Madrid, qu'il a présenté aujourd'hui. « Je vais donner tout ce qui m'est possible pour aller le plus loin et gagner cette Ligue des Champions, dont la finale se tient le 1er juin 2019 au Wanda Metropolitano, l'antre des Colchoneros, a déclaré l'ancien monégasque. Formé à Caen, Lema, 22 ans, a passé 3 ans sur le rocher entre 2015 et 2018 avant de rejoindre cet été l'Espagne contre 72 millions d'euros où il retrouve 2 coéquipiers en bleu, Antoine Griezmann et Lucas Hernandez.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie et on passe au dossier du jour à présent. Au Mali, le dépouillement des bulletins de vote se poursuit au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Les observateurs déplorent les différents incidents qui se sont produits, de même que ce qu'ils appellent des dysfonctionnements et insuffisances. 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. De Bamako, le reportage de notre envoyé spécial Jacques Aristide.
Les Maliens sont donc dans l'attente alors que se poursuit le décompte des voix. Les militants des candidats à la présidentielle, comme ici au QG de campagne du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, sont eux aussi impatients. La confiance est toutefois de mise. Kansutu Sidibé est membre de l'équipe de campagne.
Oh que oui, je suis confiante parce que j'ai confiance en mon président et je sais ce qu'il vaut et ce qu'il a fait dans le pays. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et les Maliens savent, avec tous ceux qui sont allés dire en Europe, dire que le président ne travaille pas, j'ai confiance en Ibeka. Et je sais que les Maliens aussi, ils ont confiance en cet homme.
À deux pas d'ici, même ambiance, bon enfant, les militants et partisans du candidat Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, affichent la même confiance. Nuhum Togo est directeur de communication de l'équipe de campagne.
Vous savez, la confiance que nous entoure, c'est la confiance du peuple malien, parce que le peuple aspire à un changement tant souhaité par le malien lambda, que veut une situation où aujourd'hui nous vivons dans des situations très difficiles en termes de sécurité, en termes de bien-être, en termes de l'école, en termes de la société, en termes de l'emploi. Tout le monde souhaite que ça change.
Le déroulement du scrutin a été perturbé dans un nombre important de bureaux de vote sur les 23 000 recensés. Et maintenant, les observateurs électoraux surveillent de près le dépouillement. Les membres du pool d'observation du Mali sont toujours à pied d'œuvre. Ibrahima Sango, président du POSIM.
Dans la nouvelle loi électorale, on a introduit une disposition majeure qui est le fait que l'ensemble des bulletins de vote et le procès verbal de dépouillement des opérations électorales, des résultats, sont signés par l'assesseur de la majorité et l'assesseur de l'opposition. Bon, même si on a noté des choses, si on a des résultats, on ne pourra pas les communiquer parce que la loi électorale dit que l'administration territoriale doit publier les résultats provisoires et puis après la Cour constitutionnelle va publier les résultats définitifs. Donc nous, on a des tendances, on a des trucs, mais on n'est pas habilité à les communiquer.
Oui, donc des tendances. Va-t-on vers un second tour?
On le croit.
Les observateurs notent également que les électeurs ne se sont pas beaucoup mobilisés pour accomplir leur devoir civique. Les résultats sont attendus dans le courant de cette semaine avec l'éventualité d'un second tour le 12 août prochain. De Bamako au Mali, Jacques Aristide pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
L'Érythrée et la Somalie ont signé un accord portant sur l'établissement de relations diplomatiques après plus d'une décennie de tensions. Irénée Hermanoumbo a joint Roland Marchal du Centre des recherches internationales et spécialistes des questions de la Corne de l'Afrique. Et selon lui, c'est une belle occasion pour ces pays de construire un nouvel ordre régional avec en toile de fond de grands défis à relever. On l'écoute.
Et une chose, ça va être pour ces États de retrouver leur marque. Une autre, ça va être de reconstruire un ordre régional qui soit réaliste et en même temps qui fasse un peu place aux égaux des uns et des autres.
Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle étape des bouleversements positifs que connaît la Corne de l'Afrique quand on sait que l'histoire récente de ces trois nations est entremêlée?
Oui, l'histoire de ces trois nations est entremêlée. La Somalie a servi quand même pendant des années de refuge aux dirigeants érythréens et tigréens, donc qui s'opposaient alors au régime à Addis Abeba, dans la deuxième moitié des années 70 et dans les années 80. Bon, après, c'est devenu plutôt l'inverse dans les années 90 à cause de la guerre civile en Somalie. Et puis ensuite, dans la division de la guerre civile entre ceux qui étaient soutenus par l'Éthiopie et ceux que mécaniquement l'Érythrée a soutenus. Donc cette période semble achevée, je dis bien semble. Si vous voulez, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que oui, d'un certain côté, cette période s'achève et on voit mal, elle ne pourra pas se prolonger sur les mêmes bases. Mais d'un autre côté, le nouvel ordre régional à construire, il reste encore à construire. Et donc il y a beaucoup de questions, d'interrogations sur la capacité des uns ou des autres à faire des compromis.
À vous entendre, c'est une nouvelle collaboration qui sera basée sur la prudence.
Il ne faut pas se cacher que le chemin va être difficile et le chemin va être long, sauf à vouloir faire de grandes déclarations qui, si vous voulez, auront beaucoup de problèmes à se matérialiser parce qu'il y a des problèmes à régler. Et en même temps, si ces problèmes ne sont pas réglés, on aura assez rapidement de nouveau des amertumes. Et puis ensuite, vraiment des acrimonies et puis peut-être des oppositions.
Et à quoi peut-on s'attendre alors dans ces conditions aujourd'hui concrètement?
Il y a plusieurs tests qui méritent d'être attentifs. Le premier, c'est ce qui va se passer dans les élections éthiopiennes dans 2 ans. Si le Premier ministre est capable de mener la coalition pouvoir à une victoire, mais que ce n'est pas une victoire totale, avec une voix laissée à l'opposition, bon, ça sera un énorme pas en avant. Et ensuite, dans la question régionale, ça va être assez rapidement comment est-ce que l'Érythrée et l'Éthiopie arrivent à trouver des politiques économiques convergentes qui permettent à l'Érythrée de sortir d'une situation économique qui est quand même très grave.
C'était Roland Marshall, joint en France.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Sénégal, Orange, le principal opérateur de téléphonie et fournisseur d'accès à Internet, subit le courroux de ses clients suite à la suppression du cumul de passes Internet. Ce qui, au départ, était une simple vague de contestation, s'est transformé en quelques jours en un vaste mouvement de boycott. De Dakar, le reportage de Seydina Abagay.
C'est une véritable vague de contestation et de critiques que subit l'opérateur de téléphonie Orange, surtout auprès des jeunes Sénégalais qui se sentent lésés par la nouvelle formule de connexion Internet. Binta est une jeune étudiante. Elle trouve le boycott légitime.
Tous les jeunes n'ont pas les mêmes revenus. 1500 francs pour avoir de la connexion pour une semaine, c'était vraiment très bénéfique pour eux, pour être en contact avec le monde extérieur et tout. Donc si aujourd'hui on enlève cette possibilité d'avoir de la connexion pour une semaine, disons que ça les coupe carrément du monde extérieur. Donc je pense qu'on devrait, même si ils se sont rendus compte à la fin que c'était juste une faille, que c'était pas normal, ils devraient quand même essayer de proposer un service pareil qui permettra aux jeunes d'avoir assez de connexion Internet pour une semaine.
Au-delà de cette nouvelle formule de connexion, c'est le système d'exploitation d'Orange qui est remis en cause. Abdou Tcham, technicien informatique, estime que la société de télécommunications abuse de ses clients aux revenus modestes.
On est colonisé par Orange. Je ne sais pas qui est derrière. On ne peut pas expliquer totalement ce qui se passe ici avec Orange. Chaque fois, ils nous volent. Chaque fois, ils font des milliards de bénéfices. Alors qu'au Sénégal, les gens n'ont pas quoi manger. Tu achètes un crédit de 1000 francs, tu fais un pass Internet, ça prend juste 24 heures. Et c'est anormal parce que c'est ton argent, tu l'as acheté. Ça doit être illimité. On ne doit pas te forcer pour utiliser ton crédit ou ne le pas utiliser.
Rosalie est une jeune juriste. Elle estime que pour faire plier Orange, il faudrait d'abord briser sa mainmise sur les réseaux télécoms.
Je pense que ça n'aura pas un aussi grand impact, sans pour autant vouloir être négatif, ça n'aura pas un aussi grand impact que voulu en tout cas. Orange a un monopole incroyable par rapport aux autres soi-disant concurrents comme Tigo et Expresso. Et Orange a une base clientèle tellement énorme que quelques Sénégalais qui décident de ne plus acheter certains passes parce qu'ils coûtent cher ou parce qu'ils ont une durée limitée ne peuvent pas forcément atteindre leur objectif ou en tout cas impacter d'une manière conséquente Orange et son business.
Au Sénégal, un énième combat est mené contre les abus de la société leader en téléphonie et accès Internet. Cette fois, le mouvement semble avoir une plus grande portée car des milliers de jeunes ont manifesté leur courroux suite à la suppression du cumul des passes Internet qui leur permettait d'avoir un accès à Internet à moindre frais. Malgré cette vague de contestation, Orange n'a pas encore répondu aux revendications de ses clients, se contentant juste d'un tweet pour prendre acte des doléances. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Pour la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en nom de Sim Souloumami, présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Rien n'est plus important pour l'avenir de l'Afrique subsaharienne qu'une source d'énergie abordable et fiable sans laquelle aucune entreprise ne peut réussir. L'énergie électrique est un ingrédient crucial de notre réponse à l'un des plus importants défis de développement de notre temps, le déplacement des familles et de communautés à travers le monde, a déclaré l'administrateur de l'USAID, Mark Green, au 4e sommet annuel Powering Africa. La connectivité permet aux déplacés de rester en contact avec leurs familles et amis, de remettre de l'ordre dans leur vie avant de chercher à s'installer dans un nouvel endroit. Toutefois, en Afrique subsaharienne, des millions de déplacés vivent pour une durée indéterminée dans des camps sans électricité. Et c'est ici que Power Africa intervient. En janvier, l'USAID a annoncé un nouveau partenariat entre Power Africa et Mastercard qui vise à connecter des millions de déplacés d'Afrique au réseau électrique et leur permettre d'accéder aux outils digitaux et à l'Internet. À travers Power Africa, nous avons aidé à mobiliser plus de 20 partenaires allant de Mastercard à Mercy Corp, en passant par Energy Peace Partners. Ensemble, nous œuvrons pour électrifier et connecter 5 camps des réfugiés, 3 en Ouganda et 2 au Kenya, a expliqué l'administrateur Green de l'USAID. Power Africa est réellement un partenariat réussi entre le gouvernement et le secteur privé. Power Africa marche, a dit l'administrateur Green. L'initiative a aidé 58 millions de personnes à accéder à l'électricité grâce au mécanisme du marché et de l'entrepreneuriat. Elle a impliqué plus de 140 partenaires du secteur privé et mis à contribution les autorités de régulation pour faciliter des transactions, se chiffrant à 14,5 milliards de dollars. Côté gouvernemental, l'USAID fournit l'assistance technique et des garanties de prêts pour faciliter les investissements. Le Millennium Challenge Corporation prête main forte aux réformes du secteur énergétique. Le département d'État œuvre, de son côté, au renforcement de la gouvernance dans le domaine de l'énergie, tandis que l'Agence pour les investissements privés à l'étranger finance les infrastructures énergétiques à travers le continent. Et cela devrait être le ton de l'Afrique, a déclaré l'administrateur Green de l'USAID. Le continent africain dispose d'un potentiel énorme, ses ressources, ses terres agricoles et ses pâturages, mais surtout l'impressionnant esprit de résilience et de joie qui habite un si grand nombre des habitants. Comme l'a dit le président Trump l'automne dernier en marche de l'Assemblée générale des Nations unies, en ce qui concerne l'Afrique, les perspectives sont brillantes.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.